L'idée, c'est pour quelqu'un de pouvoir vivre de son savoir-faire, de pouvoir vivre d'une activité qui passionne, de changer de travail ou de faire évoluer son travail. Et donc l'idée est de permettre à tous de développer sa propre activité, son propre emploi, sans être contraint de créer sa propre entreprise, mais en intégrant une entreprise qui a une vocation à être partagée.
Concrètement, par exemple, on va prendre l'exemple d'un photographe. Un photographe qui fait des photos. il peut faire appel à Grands Ensembles et ça gère quoi? Tout ce qui est facture, fiche de paye, charge salariale. Comment ça se passe concrètement?
Alors effectivement, dans Grands Ensembles, il y a un volet, on va dire, très opérationnel, où chaque entrepreneur peut bénéficier d'un ensemble de services qui sont mutualisés, qui lui évitent de s'occuper lui-même de toute la partie administrative. C'est-à-dire que l'entrepreneur va pouvoir se concentrer sur uniquement son activité, c'est-à-dire vendre et réaliser des prestations ou des biens, et ne pas avoir à se préoccuper de toute la partie administrative. Alors elle se caractérise par tout ce qui est de l'ordre de la facturation, de l'ordre du recouvrement, de la transformation du chiffre d'affaires qui est réalisé en salaire, puisque c'est le principe des coopératives d'activité d'emploi, c'est que nos entrepreneurs bénéficient d'un statut de salarié, et donc ils vont pouvoir se consacrer pleinement à leur activité, et le chiffre d'affaires qu'ils réalisent va se transformer en partie en salaire et en partie en remboursement des frais ou des charges engagées pour exercer leur activité.
Imaginons que, par exemple, moi, j'ai une idée, je veux vendre je sais pas, des beignets bio sur le marché. Est-ce que je peux taper à votre porte et soumettre mon idée à votre coopérative?
Tout à fait. Il n'y a pas vraiment de limite de type d'activité. C'est-à-dire qu'en plus, on est, contrairement à d'autres formes d'accompagnement, on n'est pas trop regardant sur l'aspect de la faisabilité. C'est-à-dire que on va pas, si vous venez nous voir avec ce projet-là, on ne va pas vous juger sur le marché que ça représente. On peut penser que ça correspond à un très bon marché ou penser le contraire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on pense que, en réalité, sur des activités, l'exemple que vous donnez d'ailleurs est assez probant par rapport à ça, c'est que on est de plus en plus sur des activités qui sont émergentes, qui sont pas très connues par le marché, et pour laquelle la réalisation de ce qu'on appelle une étude de marché ne fonctionne pas. Ce qui compte, c'est pas tant le marché, c'est la capacité de la personne à rencontrer des personnes intéressées par l'offre. Et que c'est plutôt dans des logiques de co-construction de l'offre et de la demande. C'est plus la capacité de la personne à développer son activité que le marché en tant que tel. Donc on ne va pas nous porter de jugement sur le bien fondé du marché. On va aider la personne à essayer de réaliser son activité sans préjugés. Et on va l'aider dans ce sens-là. Donc quand je dis l'aider dans ce sens-là, il y a, comme vous l'avez compris, tout un volet technique dans l'accompagnement. Il y a l'aspect administratif, donc on vous l'a dit, hein, l'aspect comptable, l'aspect social. Mais il y a également dans la coopérative d'autres aspects qui sont plus liés à l'accompagnement, au développement de l'activité. C'est-à-dire qu'on anime des ateliers qui s'apparentent un peu à des petites formations qui ont pour but d'aider au quotidien chaque entrepreneur à développer son activité. Alors ça porte sur les aspects développement commercial, ça porte sur l'ajustement du prix de vente, par exemple. Souvent au départ, on ne sait pas bien comment fixer les prix. Donc il est important, par exemple, qu'on puisse aider chaque entrepreneur à avoir conscience du coût de revient de l'activité et donc de au moins fixer un prix de vente qui ne soit pas inférieur au coût de revient. Et donc tout ça, on a développé tout un panel d'outils et d'ateliers qui vont aider la personne concrètement à développer son activité. Mais ça ne va pas se faire avant qu'elle crée, ça va se faire pendant, puisque notre principe, c'est la personne arrive avec une idée et en quelques jours, on lui offre la possibilité de la mettre en œuvre de suite. C'est-à-dire qu'on va lui prêter un cadre administratif, puisqu'on lui met à disposition notre entreprise, qui a un numéro de SIRET, un code NAF, un numéro de TVA intracommunautaire. Donc on peut l'aider à faire une plaquette, à faire des flyers. Et donc tout de suite, on va lui proposer de se confronter à ses clients potentiels, à son marché, et essayer de développer son activité. Quelquefois, de développer plusieurs idées aussi. Quelquefois, les entrepreneurs sont pas certains, ils ont plusieurs idées. Et on aurait tendance à leur dire de faire un choix. Nous, on ne leur dit pas de faire un choix. On leur dit, ben, si vous avez deux ou trois idées, testez les deux ou trois idées. Et ensuite, on pourra, dans quelques mois, ensemble, décider de retenir qu'une seule idée si, quelquefois, justement, les personnes arrivent à créer leur activité en développant plusieurs sous-activités.
La contrepartie, c'est quoi? C'est que le créateur de l'activité reverse une partie de ses bénéfices à la coopérative?
C'est pas tout à fait les bénéfices parce qu'il n'en fait pas toujours des bénéfices. Et donc, c'est pas tout à fait ça. C'est une partie du chiffre d'affaires que l'entrepreneur va laisser à la coopérative pour financer ce qu'on appelle l'ensemble des services mutualisés. C'est-à-dire que concrètement, l'entrepreneur va laisser à la coopérative 10% du chiffre d'affaires hors taxes. Et ces 10% vont être regroupés par l'ensemble des activités des entrepreneurs pour financer tout le back-office, c'est-à-dire toute la partie notamment technique, administrative, comptable. En réalité, très souvent, le montant versé est inférieur au coût de revient de ce back-office, puisque ça peut être assez lourd. Et on a quelquefois des entrepreneurs qui démarrent et donc qui n'ont pas un chiffre d'affaires important. Pour autant, la dimension administrative peut être quand même assez conséquente. Donc c'est 10%, mais c'est 10% que les entrepreneurs se reversent à eux-mêmes. C'est 10% qui est reversé dans un pot commun. Et ce pot commun sert à payer les services mutualisés. Ces services vont donc s'adapter à notre capacité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, avec ce qu'on récolte des entrepreneurs, d'assumer toute la partie back-office administrative, mais il y a d'autres coopératives d'activité qui sont à un stade de développement supérieur au nôtre, en France, par exemple, en région parisienne, où cette caisse permet d'aller beaucoup plus loin. On en est à imaginer de payer par exemple des mutuelles, de renforcer, puisque c'est vraiment notre vocation, de renforcer la sécurisation, on va dire, de l'activité dans un cadre collectif. On a cette intuition que pendant trop longtemps, on a un peu, les politiques publiques ont poussé les gens à créer des entreprises individuelles et notamment dans la perspective de lutter contre le chômage de masse, sans se préoccuper de ce que ça avait comme conséquence pour ces personnes qui créaient ces entreprises, qui prenaient un risque important, à la fois personnel, mais aussi sur le plan de leur patrimoine, sur le plan familial. Et donc, nous, notre position, c'est de penser que l'acte d'entreprendre n'est pas fondé uniquement sur une vision individualiste et que on peut réussir une activité personnelle dans un cadre collectif et que le fait d'être avec d'autres entrepreneurs, de partager ses difficultés, de partager aussi des points de vue, des clients, des réseaux, ça peut, le collectif peut aider chaque entrepreneur individuellement.
Vous écoutez Radio PFM 99.9, fréquence libre et sans pub. On parle toujours d'économie sociale et solidaire avec Sandrino Gracefa de la coopérative d'activité et d'emploi Grands Ensembles. Suite de notre entretien avec lui à propos de la démarche de cette coopérative.
Souvent le problème pour démarrer une activité, bon, on reprend cet exemple des beignets bio et végétariens, donc il faut que je fasse un investissement, il faut que j'achète les bacs pour frire. Est-ce que vous aidez ceux qui ont un projet finalement à trouver des sous quoi?
C'est un peu la limite de notre système, c'est qu'on est, on est très bien adapté à, aux activités qui nécessitent peu d'investissement pour démarrer. C'est-à-dire que s'il vous faut que quelques centaines d'euros, allez, quelques milliers d'euros pour démarrer votre activité, on trouve des solutions ensemble, parce qu'il se trouve que nous avons aussi des partenariats avec des organismes comme l'ADI, par exemple, qui peut, ou avec des organismes bancaires plus classiques. Donc quand il s'agit simplement de quelques centaines, voire milliers d'euros, on trouve des solutions. Par contre, quand l'activité nécessite un investissement conséquent et donc un risque important et que c'est une condition pour démarrer l'activité, alors notre système n'est plus adapté. Ce qu'on est capable de faire, c'est d'aider des personnes dont l'essentiel du savoir-faire est personnel, c'est-à-dire où on est énormément dans les activités ou d'artisanat ou de prestations de services, c'est-à-dire des activités où quelquefois, il suffit simplement d'acheter un ordinateur ou démarrer son activité avec une camionnette que l'on avait déjà ou du matériel que l'on avait déjà ou avec sa propre voiture personnelle ou avec des locaux personnels qu'on peut mettre aussi à disposition de l'entreprise, de l'activité. Donc on va nous permettre de démarrer avec des moyens qui sont peu importants. Et il nous semble aussi prudent pour beaucoup d'entrepreneurs, de démarrer avec peu de moyens et donc de limiter au moment de l'émergence du projet, limiter les risques. Après, une fois que l'entrepreneur a développé du chiffre d'affaires, a commencé à développer son activité et que ça fonctionne bien, on peut lui proposer, après une période qui est d'une durée de 2 années au sein de la coopérative, nous avons la possibilité de lui proposer de devenir associé de la coopérative, puisque notre statut juridique est celui d'une société coopérative de production, une SCOP. Et donc le principe des SCOP, c'est que les salariés sont majoritairement propriétaires de l'entreprise. Et donc, pour ceux qui ont passé le cap des 2 ans, nous pouvons leur proposer de passer d'un statut d'entrepreneur salarié à un statut d'entrepreneur associé. Et donc là, ils deviennent membres de la SCOP, ils participent à ces instances de direction, de gouvernance. Et là, nous proposons à ces personnes d'aller beaucoup plus loin en termes de risque. C'est-à-dire que là, la coopérative peut souscrire, par exemple, un emprunt pour le compte d'une des activités développées par un des entrepreneurs. Et là, cet emprunt sera plus facile à obtenir puisque c'est la coopérative, avec l'ensemble que ça représente économiquement, du poids économique de la coopérative, qui sera apprécié par le partenaire bancaire.
À Arras, il y a combien de personnes dans cette SCOP ?
Arras est le siège de la coopérative Grands Ensembles, qui est donc installée également à Amiens et à Douai. Au total, nous avons, on va dire, un portefeuille d'entrepreneurs à différents stades qui est d'environ 110 entrepreneurs sur les trois établissements. Je pense qu'ils sont environ 60 sur l'établissement d'Arras et que environ 40 vivent déjà, parmi ces 60, 40 vivent en grande partie, on va dire, de leur activité.
Et c'est quel type d'activité majoritairement, ou quelques exemples peut-être ?
Alors c'est assez varié, comme je vous l'ai dit, à la fois dans le champ de la prestation de services aux entreprises, prestation de services aux particuliers, et également des activités dans le domaine de l'artisanat. Alors des exemples concrets, il y a à la fois des gens qui vendent des prestations de matière grise, par exemple des formateurs, des consultants, des gens qui travaillent dans le champ de la communication, des web designers, des gens qui sont informaticiens ou qui font du conseil, de l'assistance informatique à domicile. Il y a également des coiffeurs à domicile, il y a des gens qui font du nettoyage, des gens qui font de la maintenance, c'est-à-dire des activités qui sont souvent des activités de prestation aux entreprises ou aux particuliers. Assez peu, nous avons vraiment assez peu d'activités dans le champ purement commercial. Il y a bien sûr certains de nos artisans qui vendent leurs propres produits, mais l'activité commerciale en tant que telle est assez marginale.
Dernière partie de notre entretien avec Sandrino Grassefa de la coopérative d'activité et d'emploi Grands Ensembles. Il participera demain matin à Arras à une rencontre organisée dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, rencontre à laquelle prendra part aussi celle qui a créé la toute première coopérative d'activité et d'emploi en France. Elle s'appelle Elisabeth Bost.
Elisabeth Bost est la personne qui a initié ce concept de coopérative d'activité et d'emploi il y a environ 15 ans, qui est à l'origine et à l'initiative de la première coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Cap Service, qui existe toujours, qui est basée à Lyon, qui regroupe environ 400 entrepreneurs salariés à Lyon, et donc qui a été également à l'origine de l'essaimage de ce concept de coopérative d'activité et d'emploi sur l'ensemble du territoire national, puisqu'aujourd'hui il y a 130 coopératives d'activité et d'emploi en France, mais également un développement qui se veut de plus en plus européen, puisque se développe également ce concept au-delà de nos frontières, notamment en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, et également dans d'autres pays.
Cette activité, en tout cas, elle est présentée comme appartenant à l'économie sociale et solidaire. À la base, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi une critique d'une certaine organisation, on peut dire une organisation capitaliste de la société. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que c'est... en tout cas sur cette activité, en quoi c'est une critique de cette société ou est-ce que c'est plutôt une activité qui est intégrée dans le marché finalement ?
Simplement quand même, l'économie sociale est solidaire, mais au départ il y a quand même économie sociale qui s'inscrit dans une histoire qui a un peu plus de 200 ans, regroupe trois familles d'acteurs. Les associations, loi 1901, le secteur coopératif, donc les coopératives au sens large, et les mutuelles. Et donc les coopératives d'activité et d'emploi sont une partie intégrante de la famille coopérative, puisque nous développons sous la forme de sociétés coopératives de production. Et donc nous pensons, effectivement, vous avez raison, c'est une forme de critique par rapport à un système qui est uniquement basé sur le profit. Donc nous pensons qu'il est possible de développer des activités économiques et donc d'être de ce point de vue pleinement sur le marché, puisque nous vendons des biens et des services et nous payons pour cela des impôts et nous sommes dans un champ qui est totalement concurrentiel. Mais pour autant, nous le faisons dans un cadre où la finalité du profit n'est pas la priorité. C'est-à-dire que les personnes qui ont décidé de créer ces coopératives d'activité et d'emploi et les personnes qui décident d'y développer leur activité et de pérenniser leur activité dans des coopératives d'activité d'emploi sont des personnes qui pensent que c'est assez agréable de pouvoir vivre de ses propres compétences, de pouvoir trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, mais qui n'ont pas pour obsession de gagner toujours plus d'argent, simplement de gagner correctement sa vie en ayant une activité dans laquelle on s'épanouit. Et donc on pense que les organisations économiques peuvent être, et donc des entreprises que nous sommes, peuvent être aussi un cadre propice à l'épanouissement personnel dans une perspective qui n'est pas uniquement basée sur le profit. D'ailleurs, nos statuts ne nous permettent pas cela, puisque le statut coopératif oblige les dirigeants, enfin ceux qui sont organisés en société coopérative, de ne pas redistribuer la totalité des résultats, puisque nous sommes contraints par le législateur de reverser une bonne partie, une grosse partie de nos résultats, d'une part à ce qu'on appelle des réserves impartageables, c'est-à-dire qu'au moins 25% de nos résultats doivent être réinvestis dans l'entreprise, c'est-à-dire dans l'outil commun, dans l'outil partagé, et puis une autre part de ce résultat doit être redistribuée à l'ensemble des salariés, qu'ils soient associés ou pas, dans le cadre d'un accord d'intéressement et de participation. Et donc la part de rémunération de la partie capitale est très faible, et par ailleurs, ceux qui détiennent le capital sont majoritairement également nos salariés. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans un modèle d'organisation qui est assez différent de celui d'une entreprise où il n'y aurait plus de lien du tout entre ceux qui détiennent le pouvoir dans l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui détiennent le nombre de parts, de capital, et ceux qui font vivre cette entreprise. Par ailleurs, les sociétés coopératives ont un principe qui est important, c'est celui de « une personne égale une voix ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'actionnaire plus important qu'un autre. C'est-à-dire qu'un salarié qui a une part, qui vaut 100 euros par exemple, a autant de poids qu'un partenaire extérieur qui a 10 000 parts. Donc on est vraiment dans une gestion qui est à la fois démocratique, où ce n'est pas le poids de l'argent qui compte, et également une gestion qui se veut redistributrice et protectrice. C'est-à-dire, ce qui compte pour nous, c'est que nos entreprises soient pérennes, et pour cela, on ne redistribue pas donc tout le capital, enfin tous les bénéfices. Et ce qui compte, c'est que nos entreprises puissent être un cadre où les gens qui y travaillent s'épanouissent.
Alors pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça, en fait
Eh bien, il faut que je vous réponde très sincèrement, je ne sais pas. Et donc, je m'efforce de faire en sorte que se développent de plus en plus d'entreprises sous forme coopérative. On est un mouvement qui reste un mouvement peu important, puisque nous comptons en France qu'un peu moins de 2000 sociétés coopératives. Ça représente environ 42 000 ou 43 000 salariés en France. Donc nous sommes un petit mouvement qui a souffert aussi d'une image un peu poussiéreuse, parce qu'on a souffert aussi d'expériences qui ont marqué l'histoire des sociétés coopératives. Il y a eu des entreprises coopératives qui n'ont pas fonctionné. Et donc on est souvent assimilé un peu à une vision un peu autogestionnaire, un peu idéologique. Et donc ça nous a un peu desservi, puisque on imagine toujours que les SCOP, c'est des entreprises mal organisées où tout le monde pourrait décider de tout. Les SCOP sont, du point de vue de leur organisation, des entreprises assez banales, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est en SCOP qu'il n'y a pas une organisation, une hiérarchie, des responsabilités. Simplement, la finalité est différente. Mais nous avons besoin, pour que l'idéal coopératif se développe et prospère, nous avons besoin de moderniser un peu l'image de ces structures.